Bonjour, bonjour à tous, il est 9h, mardi 23 octobre 2018, bienvenue dans les voies de service sur Canal M. Je suis Louis de Bernis et je suis en compagnie de Jean-Charles Algan ce matin.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très très bien.
Faites-vous partie de l'armée des nez un peu bouchés, des voix un peu prises ce matin ?
De temps à autre, ça m'arrive, oui, mais ça n'est pas obligatoirement lié au froid.
Ah, d'accord, il peut y avoir d'autres explications. Oui. Couvrez-vous bien en tout cas si oui. Vous sortez aujourd'hui. C'est le conseil vraiment à appliquer ces jours-ci, le froid est de retour. Nous sommes deux dans le studio, peut-être Yves-Olivier nous rejoindra-t-il un peu plus tard, un peu par surprise. Et en attendant, nous allons vous annoncer nos sujets de cette première moitié d'émission. Quels sont-ils, Jean-Charles ?
Eh bien, moi je vais donc dans la section voyage. Mm-hmm. Je vais lier un peu voyage et immobilier. Montmartre résiste tant bien que mal au tourisme de masse. Montmartre, ce village... un peu particulier à Paris. Et puis, nous parlerons aussi, bien sûr, du cannabis qui est autorisé par Parc Canada dans des parcs nationaux, je dirais lesquels. Et puis, on verra aussi peut-être les Québécois qui profitent davantage de leur congé.
Très bien, nous parlerons de vacances.
Oui, c'est pas mal là-dessus.
Ça me va, ça, comme sujet. De mon côté, eh bien, écoutez, comme d'habitude, des insolites, des choses qui étonnent. Il y a une belle histoire en Nouvelle-Écosse dont je vous parlerai. Un veuf de 92 ans inondé de cartes de souhaits.
Ah, oui.
Nous parlerons également, qu'y a-t-il ? Oh oui, d'une maison cambriolée ou toute rangée. Ça s'est produit, ça, c'est une histoire amusante dont je vous en dirai plus tout à l'heure. Et puis également, pourquoi pas, peut-être une solution s'il y en a parmi nous qui jouent un peu trop au casino. Je ne sais pas s'il y en a qui ont l'habitude de le fréquenter, mais écoutez, il y a un homme qui a réussi à se faire rembourser toutes ses dettes. Je vous expliquerai ça dans quelques instants dans les voies de service.
Montmartre résiste tant bien que mal au tourisme de masse, de Loïc Venin de l'agence France Presse à Paris. 12 millions de visiteurs par an, des loyers qui flambent, des peintres victimes de la concurrence chinoise, le quartier de Montmartre à Paris tente de sauver ce qui peut encore l'être face au tourisme de masse et aux souvenirs de pacotille. Dans la salle basse et sombre, les touristes russes, canadiens, australiens et parfois français écoutent religieusement des chansonniers égrener le répertoire classique. Alouette, gentille alouette, suit comme de bien entendu, c'est un autre titre de chanson. Pas de micro, un vieux piano, debout et des tabourets spartiates, rien n'a changé depuis 1860 au Lapin Agile, ou presque. C'est le dernier combat traditionnel de Montmartre, se félicite son propriétaire Yves Mathieu. Comme sa mère le faisait dès 1938, le chansonnier pousse la voix dans la maisonnette entourée d'acacias, sorte de cottage hors du temps qui trône sur les hauteurs de Montmartre, à deux pas de sa fameuse vigne, rappelant que ce qui est aujourd'hui un quartier de Paris n'était jadis qu'un village voisin de la capitale. Le lapin Agile, était le rendez-vous des peintres qui avaient élu domicile à Montmartre à la fin du XIXe siècle. Les maîtres venaient y écluser les absinthes, payant parfois en toile faute d'argent, comme en témoignent au mur un Picasso et un Toulouse-Lautrec, copies des œuvres qui avaient été données au cabaret. Plus tard, nombre de chanteurs ont débuté ici. Charles Aznavour, qui a dit avoir pris quelques bonnes cuites, Georges Brassens, Léo Ferré, faisant du lapin un conservatoire de la chanson française. Et du Montmartre d'antan, bien sûr. J'ai 90 ans, mais je continue, lance fièrement Yves Mathieu, dont la voix, toujours aussi forte et grave, continue à emplir les lieux. Mes fils ont accepté de reprendre, il faut tenir le coup. Mais qu'est donc devenu le petit village d'antan, se demandent les nostalgiques, celui dont rêvait Amélie Poulain dans son fabuleux destin. Nous ne sommes pas encore à Venise, qui accueille 24 millions de visiteurs en un an. « Il y a encore des choses à sauver », répond Alain Cocard, président de la République de Montmartre, fondée en 1921, déjà dans le but de contrer un projet immobilier. La République de Montmartre n'a aucun pouvoir officiel, mais se pose en gardienne des traditions. Son président, chapeau noir et écharpe rouge, en l'honneur du poète et chansonnier Aristide Bruant, qui popularisera Montmartre fin 19e, début 20e, reçoit au siège de la République le restaurant La Bonne Franquette, où Van Gogh a peint son tableau La Guinguette. Ici, en haut de la butte, c'est fini, concède le président Coquart, 76 ans, en référence à l'invasion des boutiques de souvenirs de pacotille. Frédéric Lou, président de l'Association des commerçants du Haut-Montmartre, se retrouve ainsi à la tête du dernier commerce de proximité, sa pharmacie qui date de 1927. Le boulanger est parti, le boucher aussi. Le problème, ce sont les loyers que seul un magasin de souvenirs peut payer, explique M. Lou. Alors qu'à la fin du 19e siècle, Montmartre avait été choisi par les artistes sans le sou pour ses logements bon marché, le village est aujourd'hui largement réservé aux bobos nantis, voire aux très fortunés, attirant notamment l'attention de stars comme Johnny Depp. C'est un tsunami que j'ai vu en 30 ans, confirme Brice Moyse, M-O-Y-S-E, Moyse, directeur d'Immopolis, société immobilière spécialisée sur Montmartre. À l'achat, on est passé de 1500 euros, environ 2250 dollars, le mètre carré, à 10 000, soit 15 000 dollars, voire 20 000 ou 30 000 euros. Voire 20 000 euros, soit 30 000 dollars, dans certains cas. La gentrification est discutable. La gentrification est indiscutable, mais il faut continuer à se battre, lance le président Coquart, pour que la place du Tertre ne soit pas transformée en Disneyland, par exemple. Cette place, située dans l'ombre du Sacré-Cœur, la basilique qui domine la butte de sa façade de pierre blanche, accueille depuis toujours les peintres qui vendent les œuvres aux passants. Mais la concurrence est féroce entre ces artistes et les galeries alentour, où des peintures sont vendues au prix où nous payons notre matière première, explique Midani Mbarki, peintre et président de l'association Paris-Montmartre. Un récent reportage de la chaîne de télévision France 2 a montré que ces toiles signées Marius ou Jésus étaient en fait peintes en Chine. Ce sont des faussaires de l'art, du parasitisme, enrage Midani, qui lutte également contre l'invasion des terrasses des restaurants voisins bondés de touristes. Nous, on est dans le caniveau. Les terrasses, elles ont de la place, dit-il en montrant son petit tabouret coincé entre la bordure du trottoir et les tables d'une brasserie. Ce peintre, installé ici depuis 1970, se bat pour que les artistes puissent profiter de la moitié de la place, comme le stipule un règlement municipal du 24 mai 2011. Or, les terrasses en occupent aujourd'hui 80%, dénonce-t-il, avant de se faire menaçant. Si on n'y arrive pas, on partira, mais sans nous, Montmartre n'est plus.
Pendant que notre cher collègue qui est arrivé entre-temps s'installe tranquillement, je m'en vais vous lire l'histoire de ce veuf de 92 ans, inondé de cartes de souhaits. Ça se passe à Sydney, mais moins loin que ce qu'on pourrait croire, Sydney en Nouvelle-Écosse. Gérard Dunne a développé une amitié inattendue avec son facteur local depuis que celui-ci lui rend visite tous les jours, parfois avec l'aide d'un superviseur, afin de lui livrer un torrent écrasant de nouvelles cartes à lire. Son domicile de Sydney en Nouvelle-Écosse déborde de boîtes remplies de lettres, de notes et de cartes postales depuis que le mini-message de sa fille Myriam, qui demandait aux gens de lui envoyer leurs meilleurs vœux pour son 92e anniversaire, est devenu viral. C'est la première fois, en effet, depuis plusieurs décennies que M. Dunne célèbre son anniversaire sans sa femme bien-aimée, Hélène, qui est décédée en mars. Depuis ce message, Gérard a reçu des milliers de cartes du monde entier, notamment d'Europe, d'Australie, d'Afrique et des Amériques. Le message a même suscité une réponse du Premier ministre Justin Trudeau qui a envoyé à Gérard une carte lui souhaitant un joyeux anniversaire. Parmi les autres cartes remarquables, l'une d'elles est d'une femme qui l'a sauvé de la noyade en tant que jeune fille et qui ressentait le besoin de le remercier des décennies plus tard. Une autre femme encore a envoyé une carte « Joyeux anniversaire, papa ». À l'intérieur, elle écrit qu'elle avait acheté la carte pour son propre père mais qu'il est décédé avant qu'elle ne puisse la lui donner. Elle ne savait pas quoi en faire avant de voir le message désormais célèbre de Myriam. Myriam, justement, se dit encore dépassée par l'ampleur de la réponse. « Je pense qu'il est impossible pour papa ou moi de vraiment comprendre l'impact que cela a eu sur tant de gens dans le monde. Et je pense que ça va prendre un peu de temps et un peu d'éloignement pour vraiment comprendre, pour avoir une vue d'ensemble. » Elle continue à documenter les cartes qui entrent sur son compte Twitter. Et lorsqu'on lui demande à quoi ressemblent 4000 cartes, leur dernière estimation, elle répond « Eh bien, un énorme tas dans votre maison ». Certaines cartes contiennent des extraits de la vie des personnes qui les ont écrites. Certains incluent des photographies, des cartes, des calendriers ou même des livres sur les lieux d'où elles proviennent. Un homme d'Amsterdam a même envoyé des chocolats. Mais le plus beau côté de cette aventure, selon Myriam, est que son plaidoyer semble avoir redynamisé l'art perdu de l'écriture de la lettre, qui a progressivement été remplacé par courriels, textos et autres mini-messages. Ce qui est tellement remarquable, c'est la pensée, le temps et le soin que les gens prennent pour communiquer avec papa, a-t-elle expliqué. Écrire de vraies lettres, donner des nouvelles, décrire leur vie, parler de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils aiment, poser des questions, cela rappelle tellement l'époque où les gens écrivaient de longues lettres qui étaient en quelque sorte un flux de la conscience. Elle ajoute que depuis que son message est devenu viral, l'école catholique Notre-Dame de Fatina de Chatham, en Ontario, où enseigne la petite fille de Gérard, a lancé un programme permettant à ses étudiants d'écrire des lettres aux personnes âgées de la région. La gestion de la montagne de courriers devenait un peu un défi pour Gérard. Il a donc fait appel à sa famille pour l'aider à mettre de l'ordre. Je suis toujours tellement impressionné par le fait que les personnes qui ont envoyé les cartes étaient si heureuses et sincères à propos de tout cela, a-t-il dit. Cela me submerge de joie et de reconnaissance. Gérard avait toujours reçu des cartes de sa femme pour les nombreux anniversaires, vacances et anniversaires partagés au cours de plus de 6 décennies de mariage, et il récupère ses favoris pour décorer son domicile pour chaque occasion spéciale. Il pense qu'elle serait ravie de savoir que son histoire a touché autant de personnes à travers le monde. Ma femme était une personne très très spéciale, et ce n'est pas seulement ce qu'un mari dit de sa femme, a-t-il affirmé. Son plus grand cadeau était qu'elle, peu importe qui, elle rencontrait où, elle faisait toujours en sorte que l'autre partie se sente plus importante et plus heureuse qu'auparavant. C'était quelque chose à voir et je l'ai vu faire pendant 60 ans. Une fois que les cartes cesseront d'être livrées, mais il en arrive toujours, la famille Dunne s'attellera à la tâche monumentale de leur répondre. Gérard assure qu'il n'envisage pas d'en jeter et qu'il essaye toujours de trouver le meilleur moyen d'exprimer sa gratitude à tout le monde. Et l'idée de voir Myriam envoyer un autre mini-message à son nom le fait rigoler. Je vais devoir la freiner et lui dire plus de messages pendant de nombreuses années. Enfin, peut-être pas avant mon 100e anniversaire.
Comme une voix dans l'intercom qui me dit simplement te laisser filer. Comme le début d'un mauvais sitcom où le générique à la gomme me dit simplement qu'il faut laisser filer. Comment il faut vivre aujourd'hui? Comment se compare toute une vie? Comment il faut vivre aujourd'hui avec ces cons qui nous poursuivent? J'entendais et qu'il faudrait que je sois. Je leur réponds simplement come to my world. Si on devait s'habiller sans arrêt s'imiter, à qui devrais-je ressembler? Come to my world. tellement des pommes qu'il nous manquait des chromosomes, qu'on devait forcément sans arrêt se copier. Comme si vouloir sortir de la norme, ça paraissait tellement énorme. Sortir du nid pour pouvoir se laisser voler. J'entendais et qu'il faudrait que je sois. Je leur réponds simplement come to my world. Si on devait s'habiller sans arrêt s'imiter, à qui devrais-je ressembler? Come to my world.
On vient d'entendre Soul et la pièce Comme.
Bon matin, chers auditeurs. Ici Yves Olivier. Hein, j'ai rejoint mes comparses. Et je vous propose un petit moment de détente, mais de détente intelligente, parce qu'il commence à se refroidir. C'est l'automne. Et je vous propose une petite idée de cocktail, mais à base de gingembre. Donc, parfait pour prévenir les maladies du froid.
Je confirme.
Oui. Alors, prenez note. Préparez stylos et papier. Surtout vous, en régie. Alors, ça s'appelle le gingembre étincelant. On y va avec 1 once de whisky américain, 3 onces de soda au gingembre, des glaçons, une rondelle de lime. Maintenant, pour la prédisposition, c'est très important. On dispose les verres remplis de glaçons, on y verse le whisky américain, ensuite on y ajoute une rondelle de lime. Juste avant de servir, complétez avec le soda au gingembre. Voilà.
Mais on peut continuer avec le fumage de cannabis, par exemple. C'est très bon aussi pour la santé, maintenant. Moi,
oui,
dis, en tout cas, dans le parc Canada, les campeurs pourront fumer du cannabis. C'est dans la presse canadienne, pas moi qui l'invente. Donc, les campeurs seront autorisés à fumer du cannabis sur les emplacements de camping des parcs nationaux du Canada, a annoncé Parc Canada. De plus, les randonneurs qui se promèneront dans les parcs nationaux de certaines provinces, dont l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec seront autorisés à fumer sur les sentiers de randonnée et dans l'arrière-pays. Il sera toutefois interdit de fumer dans les aires de camping communes et autour des terrains de jeu. Les règles applicables aux zones publiques, y compris les zones d'utilisation diurne, varient en fonction de la province où se trouve le parc national. Au Québec, par exemple, il sera permis de consommer la substance dans les sentiers et de l'arrière-pays. Il sera possible de fumer également dans les zones publiques, mais les fumeurs devront s'éloigner dans un rayon de 9 mètres lorsqu'il y a des bâtiments. 6 villes et villages au sein de parcs nationaux ont chacun leurs propres règles en matière de cannabis. Il ne sera pas permis de fumer dans les lieux publics à Banff et Jasper, en Alberta, à Waskasiu, dans le parc national de Prince Albert, en Saskatchewan, ainsi qu'à Wasagaming dans le parc national du Mont Riding au Manitoba, à Lake Louise et Waterton en Alberta et à Field en Colombie-Britannique, il sera possible de fumer du cannabis. Je précise qu'il s'agit de parcs nationaux et qu'au Québec, on interdira toujours dans certains. Moi, j'y reviendrai peut-être plus tard. Donc, j'y reviendrai plus tard. C'était voilà. Les campeurs pourront fumer du cannabis.
Et après cette petite parenthèse gustative et récréative, je vous emmène pour une insolite du côté d'Halifax où des femmes de ménage ont nettoyé la mauvaise maison. Des propriétaires qui pensaient avoir été victimes d'un vol ont finalement eu une heureuse surprise. Leur maison a été nettoyée gratuitement par deux femmes de ménage qui se sont trompées d'adresse. Les deux femmes s'étaient rendues mardi après-midi à la résidence située à Upper Tantallon, en banlieue de Halifax, a raconté la police. La porte n'avait pas été verrouillée pour permettre à un voisin d'aller promener le chien. Les femmes sont entrées et ont commencé à travailler. Le voisin a vu le duo pénétrer dans la résidence avec un aspirateur et une vadrouille. Il a alors appelé l'un des propriétaires de la maison. Celui-ci a ensuite rapporté à la police que deux femmes suspectes étaient entrées chez lui. Les policiers se sont rendus sur place et n'ont pas mis de temps à découvrir la vérité. Non seulement les femmes n'avaient rien pris, mais elles avaient laissé une maison entièrement propre derrière elles. Ces dames se sont présentées, ont nettoyé et sont parties sans savoir que c'était la mauvaise maison, a raconté le caporal de la gendarmerie royale du Canada du district d'Halifax. Rien n'a été pris, rien n'a été dérangé, la maison a seulement été nettoyée. La police a retrouvé mercredi soir une des deux femmes de ménage qui leur a confirmé l'erreur. Elles étaient très désolées de s'être trompées de maison, donc le problème a été résolu et tout le monde est content, a déclaré le policier. La GRC a rappelé aux résidents de ne pas laisser leurs portes déverrouillées. Bien que la maison ait été nettoyée gratuitement, la GRC aimerait profiter de l'occasion pour rappeler aux propriétaires de maisons de s'assurer que leurs portes sont verrouillées en tout temps, ont-ils ainsi communiqué.
Moi, j'ai envie de la laisser ouverte.
Moi aussi, on va tous laisser nos portes grandes ouvertes en espérant que tout soit nettoyé quand on revient.
La formation de Cat Empire, la sirène.
Alors si, comme nous disait notre cher ami Louis, il est très important de barrer la porte de chez soi en quittant, hein, pour éviter les vols, il est encore plus important de bien assurer sa maison et d'autant plus de savoir comment bien assurer. C'est un texte de Martin Vallière de La Presse. Que vous soyez propriétaire de votre maison ou de votre condo ou encore locataire, détenir une assurance est préférable, même si la loi ne vous y oblige pas, souligne-t-on d'emblée au Bureau d'assurance du Canada. Mais si vous contractez une hypothèque pour financer l'achat d'une propriété, il est fort possible que votre prêteur exige une preuve d'assurance de dommages. Les consommateurs ont vraiment intérêt à bien magasiner leur police d'assurance de dommages après avoir fait un bon inventaire des biens à protéger et des protections désirées en fonction de leur coût, indique Anne Morin, porte-parole du Bureau d'assurance du Canada au Bureau de Montréal. En assurance habitation, par exemple, l'augmentation significative du nombre et de la valeur des réclamations pour des dommages causés par l'eau depuis quelques années a forcé la plupart des assureurs à revoir leur approche. Par conséquent, les avenants pouvant être ajoutés aux polices d'assurance, clauses spécifiques et supplémentaires, pour couvrir les dommages d'eau sont plus restrictifs et plus coûteux, selon divers facteurs comme l'âge du bâtiment et l'état des infrastructures publiques environnantes. Par ailleurs, un contrat d'assurance de dommages en habitation comporte habituellement une protection en responsabilité civile. Cette clause d'une valeur prédéterminée protège dans le cas où vous seriez tenu responsable des dommages causés involontairement à quelqu'un d'autre ou à la propriété d'autrui. Voici quelques différents types de couvertures. Les risques de base habituellement couverts, le feu ou les incendies de forêt, l'explosion et la fumée. Le vol ou la tentative de vol, le vandalisme. La fuite ou les débordements des conduits d'eau portable et des installations sanitaires, baignoires, toilettes, laveuses, lave-vaisselle, les vents, la grêle et la foudre.
Eh bien, merci Yves-Olivier, effectivement, de nous ramener à des questions un peu plus sérieuses de temps en temps.
Il faut y penser.
Nous sommes tout en anecdote avec Jean-Charles, mais
je suis assuré.
Merci d'acquiescer, messieurs, hein, vraiment.
Recentrons-nous de temps à autre. Une courte pause et nous revenons tout de suite après. Ne quittez pas, les voies de service continuent. Nous revoici, nous revoilà, nous sommes bien trois pour débuter cette deuxième partie. Et quels sont les sujets que nous allons couvrir?
Alors, pour la politique sur le cannabis, j'en ai parlé tantôt, mais là je vais faire un petit ajout. Ensuite, je vais parler aussi toujours pour les parcs nationaux qui vont s'ouvrir aux chiens l'année prochaine. Et puis, si on a le temps, je parlerai de voyager à l'heure du surtourisme.
Très bien. De mon côté, je ne vous ai pas oublié, nous parlerons bien de casino. Nous n'avons pas eu le temps en première partie. Je parlerai également, je suis allé piquer dans vos sujets, Jean-Charles. Je parlerai de vin bleu, ça se passe en Espagne. Et puis, si nous avons le temps, peut-être irons-nous faire un tour en Australie avec le couple princier britannique. De votre côté, Yves-Olivier?
Alors, ça va être des sujets encore très sérieux.
Décidément.
On parle de karaoké, c'est très sérieux, voilà. Et de portraits d'art et d'autodestruction.
Ah oui,
J'ai une petite idée.
J'en dis pas plus.
Très bien, bien. C'est parti pour cette deuxième partie d'émission.
Alors, la CEPAC dévoile sa politique sur le cannabis, c'était dans La Presse. La Société des établissements de plein air du Québec a dévoilé mercredi sa réglementation concernant la consommation de cannabis dans les parcs nationaux et réserves fauniques du Québec. Ainsi, il est interdit de fumer du cannabis dans tous les lieux publics, notamment les sentiers de randonnée, ce qui n'était pas le cas tantôt dans certaines provinces. Les aires de pique-nique aussi, c'est interdit, les plages, les chalets ou les prêts à camper. Quant à la fumée de cannabis, elle sera tolérée exclusivement aux endroits qui sont à l'usage exclusif du client, comme les terrains de camping ou encore à 9 mètres d'un chalet ou d'un prêt-à-camper. Le client pourra toutefois fumer dans des équipements de camping personnel comme la tente ou le véhicule récréatif lui appartenant. Et je continue avec les parcs nationaux qui s'ouvrent aux chiens. À compter du 19 mai 2019, les chiens seront admis, sous certaines conditions, dans presque tous les parcs et réserves fauniques gérés par la CEPAC, a annoncé ce 17 mai, il n'y a pas longtemps, la Société des établissements du plein air du Québec. Seuls les parcs nationaux d'Anticosti et de l'île Bonaventure et du Rocher Percé, ainsi que le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, leur seront toujours interdits. Cette décision survient après la tenue d'un projet pilote de 3 ans mené dans 5 parcs nationaux. Les chiens seront ainsi admis dans les boucles de camping et dans certains sentiers déterminés. D'ici la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle politique, les chiens sont toujours admis dans les réserves fauniques ainsi que dans les parcs nationaux d'Oka, de la Jacques-Cartier, d'Aiguebelle, Frontenac et du lac Témiscouata.
Poursuivons dans cette thématique autour de ce qui est légal, ce qui ne l'est pas, ce qui a été interdit à un moment, ce qui ne l'est plus. Je vous parle donc de casino et ça se passe en Autriche. Un joueur viennois a obtenu d'un tribunal le remboursement de 2,5 millions d'euros dilapidés dans les machines à sous après avoir fait valoir qu'il était dans un état de dépendance au jeu, selon un jugement rendu public lundi. Le plaidant avait dilapidé sa fortune entre 2002 et 2012 dans des machines qui étaient libres d'accès dans de nombreux bars de la capitale autrichienne. Il a fait valoir une expertise très sérieuse selon laquelle son discernement était à l'époque altéré par son addiction, ce qui a rendu ses mises nulles et non avenues, selon le tribunal de Wiener Neustadt qui a jugé l'affaire. L'opérateur des machines incriminées, Novomatic, un des leaders mondiaux des machines à sous basées près de cette ville des environs de Vienne, a fait appel du jugement. Face à la multiplication des cas de jeux compulsifs, la municipalité de Vienne avait interdit l'exploitation des machines à sous hors des casinos le 1er janvier 2015. Nous attendons donc le jugement en appel, mais pour l'instant, eh bien, ce joueur a récupéré toute sa mise.
Je crois que je vais aussi porter plainte.
Ah, on va tous porter réclamation.
J'ai jamais joué, mais bon, on ne sait pas ça.
Sait-on jamais si on peut récupérer un petit peu.
Le karaoké. Phénomène mondial, le karaoké a aussi sa petite histoire au Québec. Il y a 35 ans, l'émission Allo Boubou présentait le premier appareil de karaoké commercialisé au Canada. Nos archives témoignent de la progression de cette invention japonaise au pays. Voici comment le karaoké est introduit à l'émission Allo Boubou le 18 octobre 1983. Vous n'étiez pas encore né, Louis,
non, si, oui. Non, moi, je... non, non, j'étais là-haut.
Jean-Charles, ça vous rappelle
Oui.
Très bien. Le directeur du marketing de Panasonic Canada, Conrad Kubiak, vient y présenter l'appareil fabriqué au Japon et qui fonctionne avec des cassettes. Plutôt que d'assister de façon passive à la lecture de la cassette, chacune des personnes à la maison peut accompagner la musique en chantant, explique le représentant du géant japonais. Les pépins techniques se multiplient durant la démonstration, mais la bande sonore finit par démarrer. L'animateur Jacques Boulanger entonne la chanson « C'est si bon ». Son invité de chez Panasonic se joint à lui. L'effet micro est là. Ne manquait plus qu'un écran pour afficher les paroles de la chanson. En 1993, une entreprise du Québec se démarque dans le marché du karaoké. Conçu à Sainte-Foy, le logiciel Soft Karaoke permet de suivre sur un écran d'ordinateur les paroles d'une chanson choisie dans le catalogue. Le journaliste Pierre Tourangeau visite les bureaux de Tune 1000 pour le téléjournal du 10 octobre 1993. Est-ce qu'on ne devrait pas dire Tune 1000 ? Au lieu de Tune 1000.
C'est une bonne question.
On vérifiera ça. L'entreprise québécoise compte 110 employés, dont de nombreux musiciens. Pour son logiciel de karaoké, elle a négocié les droits pour des centaines de chansons de multiples genres et langues. En l'espace de quelques mois, 100 000 exemplaires du logiciel Soft Karaoke ont été vendus à travers le monde. L'entreprise Tune 1000 vise l'écoulement d'un million d'exemplaires par année. Moins de deux ans plus tard, il est une seconde fois question de Tune 1000 sur les ondes de Radio-Canada, cette fois à l'émission À tout prix du 21 février 1995. Dans cet extrait, la journaliste Catherine Kovac parle d'une innovation amenée par l'entreprise québécoise. Son logiciel Soft Karaoke introduit une nouvelle technologie qui permet d'harmoniser notre voix avec la partition musicale. La trousse vendue aux consommateurs comprend un microphone, le programme informatique et plusieurs disquettes pour les chansons de l'heure. Non seulement les logiciels de karaoké facilitent la vie des chanteurs du dimanche, mais on retrouve aussi des vertus thérapeutiques. Au téléjournal du 19 mars 1994, le journaliste Réal D'Amour s'intéresse à une initiative de musicothérapie dans un hôpital de Toronto. Dans l'aile des maladies chroniques à l'hôpital Queen Elizabeth, des séances de karaoké sont utilisées comme outil thérapeutique avec les patients. Le but de l'expérience, leur permettre de se rassembler et surtout de communiquer. Plus qu'un outil de divertissement, le karaoké se révèle comme un remède à bien des maux. Cette initiative inspirante fera bien des petits. Trois décennies plus tard, l'engouement pour le karaoké ne se tarit pas, que ce soit dans les foyers pour personnes âgées, dans les hôpitaux ou dans les bars.
Chante comme si tu devais mourir, Michel Fugain.
Et moi, je change d'avis. Je vais parler d'un article que je vous lirai. En attendant, je vais vous lire autre chose à propos des vendanges. Un millésime 2018 exceptionnel. Et si vous êtes sage, je vous lirai un autre petit article à propos d'un autre vin d'un autre pays. Donc les récoltes sont terminées dans plusieurs régions de France et certaines qualifient le millésime 2018 d'exceptionnel. C'est le cas en Champagne où, après une année 2017 très difficile, la plus récente récolte s'annonce mémorable. On a eu beaucoup de pluie en hiver, expliquait Vitali Tettinger, représentante de la maison champenoise du même nom, au cours de son récent passage au Québec. Les nappes phréatiques étaient pleines, puis on a eu 2 mois de soleil comme on n'en a jamais eu. C'était parfait. Même constat à Chablis et ailleurs en Bourgogne, où le millésime 2018 est pressenti comme le meilleur des 20 dernières années. Selon les données publiées par le ministère de l'Agriculture français, la production de vin devrait augmenter de 25% par rapport à l'an dernier dans l'Hexagone. Le constat est plus mitigé dans le sud où les maladies ont affecté les récoltes. Et puis, je vais vous parler du prix de l'Assyrtiko. L'Assyrtiko, c'est un vin grec de Santorin. L'engouement pour le vin grec a un prix. Il a fait exploser le coût de l'Assyrtiko sur la petite île de Santorin. Plusieurs vignerons de cette région ne savent pas s'ils continueront à vendre leur vin au Québec. La plupart achètent des raisins pour produire leur vin. Or, 1 kilo d'Assyrtiko coûte plus de 5 euros comparativement à seulement 1 euro il y a 5 ans. Résultat, le prix de certains produits est devenu trop bas aux yeux des vignerons. Certains devraient vendre à perte au Québec ou retirer leurs produits si la SAQ n'accepte pas une hausse du coût des bouteilles. Nous sommes en négociation avec la SAQ afin d'augmenter le prix de plusieurs dollars, dit un agent qui ne souhaite pas être identifié. Selon un article paru sur le site du magazine Décanté, la sécheresse et la technique de culture en panier, qui réduit les rendements, expliquerait également la flambée du prix de l'Assyrtiko.
Et effectivement, la transition est toute trouvée. Restons dans les vignes, puisque je vous parle de vin bleu. C'est du côté de l'Espagne que ça se passe.
Oui, mais moi, je parle du vrai vin.
Le vrai vin. Eh bien, il n'est pas faux. Il est bien qu'on verra.
Non, c'est vrai. Vous allez voir. Convainquez-nous.
Vous allez voir dans l'article, c'est difficile de parler de vin. Il y a 5 ans, 5 étudiants du Pays Basque espagnol se sont lancés le défi de révolutionner un secteur et ont choisi celui du vin, considéré parmi les plus conservateurs, en créant un vin bleu. La trouvaille d'Imanol, Inigo, Gorka, Aritz et Taig, qui a nécessité 2 ans de recherche et développement avec l'aide de chimistes, est l'une des nombreuses innovations qui fleurissent dans un monde encore très traditionnel. Leur entreprise, Gic Live, avec un point d'exclamation à la fin, fondée en 2015 et qui compte désormais 12 salariés, a vendu 30 000 bouteilles dès la première année et près de 500 000 l'an passé. Elle compte aujourd'hui des clients dans 21 pays, son premier marché étant les États-Unis et le deuxième, la France, au lieu du vin. Nous comprenons que pour beaucoup de gens, le vin c'est quelque chose avec lequel on ne joue pas, le vin c'est sacré, raconte l'un des fondateurs de cette start-up. Au bar du siège de l'entreprise à Portugalete, près de Bilbao. Mais nous, on aime changer les choses et on n'a pas peur d'essayer, dit-il, alors que dans la pièce d'à côté trônent une batterie et des guitares, des employés pianotent sur leurs ordinateurs. Rien que la vue d'un verre de vin bleu pourrait suffire à faire hurler beaucoup de sommeliers. Il est pourtant fabriqué dans plusieurs propriétés espagnoles en suivant peu ou prou les mêmes étapes que le vin classique. La recette, mélanger beaucoup de vin blanc avec un peu de vin rouge et du mou. Cette mixture obtenue par pressage des raisins n'est pas encore fermentée. Puis, pour obtenir une coloration bleue électrique, ajoutez des anthocyanes, des pigments bleus que l'on trouve dans la peau des raisins rouges, et du carmin d'indigo, un colorant bleu naturel extrait de l'indigotier. L'entreprise n'en dit pas plus au nom du secret industriel, précisant juste que la fabrication combine nature et technologie. Elle utilisait auparavant des édulcorants mais les a remplacés par du vin liquoreux pour conserver le goût sucré du produit. D'autres producteurs s'y sont mis en Espagne, même du cava bleu, ce vin pétillant typiquement espagnol, est arrivé sur le marché. Quant aux jeunes entrepreneurs de Gic Live, ils ont décidé d'innover encore avec du vin au thé ou un vin rouge épicé baptisé Bastarde. Une bouteille Pardon. Une bouteille coûte en général de 11 à 13 euros en ligne et la clientèle est surtout âgée de 25 à 45 ans. Du côté des consommateurs, les réactions sont mitigées. Jean-Michel Deluc, ancien sommelier du Ritz à Paris, trouve le vin bleu surprenant. Ce n'est pas mon goût, je dois l'admettre, mais ce n'est pas mauvais quand même, c'est plutôt bien fait, dit-il dans une vidéo postée sur le blog Le Petit Ballon, consacrée à l'actualité du vin. Mais en août, le critique du journal britannique Daily Telegraph l'a qualifié de gadget, très doux, trop doux. Pour Rafael Del Rey, directeur général de l'Observatoire espagnol du marché du vin, ce vin bleu bouscule un secteur conservateur avec des consommateurs conservateurs et des producteurs conservateurs. Ça en fait. Le vin, en général, séduit moins les jeunes et les femmes et moins les gens urbains, souligne-t-il. Ces derniers ont un mode de vie différent en termes d'horaire, moins de temps pour les repas, ont besoin de produits plus légers, allant vers des saveurs un peu plus sucrées. Beaucoup d'entre eux n'ont pas trouvé un vin qui les attire, poursuit-il. Ce qui a permis l'émergence de produits comme le vin bleu ou, dans une autre veine, du vin peu alcoolisé. En Europe, la société a dû étiqueter son Gig Blue comme boisson alcoolisée car les autorités l'ont exclu de le nommer vin, justement. Nous le considérons comme une nouvelle catégorie, expliqua Ritz Lopez, cofondateur de l'entreprise. Par peur des critiques, le vigneron, qui produit aussi du vin traditionnel, refuse que le nom de son domaine et celui de son village ne soient révélés. Nous savions depuis le début que le Gig Blue serait un produit qui polariserait beaucoup les opinions, reconnaît Ritz Lopez. Pour autant, l'entreprise s'attend à faire 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires cette année, un résultat très honorable pour une société lancée il y a 3 ans à peine. La rançon du succès, Tig McCarthy raconte, un des fondateurs, raconte avoir trouvé dans une boutique espagnole des contrefaçons du Gig Blue fabriquées en Chine. Don't know what's happening. This ain't what I'm about. It's only been a week, and I'm parked outside of your house. I ain't trying to creep. Just let me in and hear me out, 'cause it's about to go down. Ooh. I'm not thinking straight. Just a stutter and slur in my speech. I'm gonna be your slave. You got me like a dog on a leash. Ain't too proud to beg. On my knees. Take out all my money from my bank. Take you round the corner by the rain. You're all up in my head, but I ain't even mad. You make me wanna make a bad decision. Let's book a shopping trip. I could charter a jet, and I don't give a shit if I never get out of debt. I see you'll be my girl, and I promise you I'll handle with care. What you doing to me? Take out all my money from the bank. Take you round the corner by the rain. You're all up in my head, but I ain't even decision. I took you to the jeweler, don't you pick a ring. I took you to the dealer, don't you pick a range. I took you to the parlor, spend $100 on a tattoo with your name and your face. And when all of the cash out, credit card maxed out, I'ma sell the house, baby, you're the realest date. See, I won't even stress for a sec, 'cause your loving is the best if I just make a bad decision. Take out all my money from the bank. From the bank, girl. Take you round the corner by the rain. By the rain, girl. You're all up in my head, but I ain't even mad. You make me wanna make a bad decision. You got me confessing like you're my new religion. You make me.
Romeo, Bad Decision.
Alors, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. On n'est pas encore en décembre, mais 2018, on pourrait quasiment déjà dire, on pourrait faire un bilan que c'est quand même une grosse année. Alors déjà, le weed est rendu légal, le vin est rendu bleu. Et là, moi, je vais vous parler d'autodestruction d'une toile. Pas mal quand même.
Pas mal.
Tout ça dans la même année.
Une année riche en événements, effectivement.
Oui, je crois.
Merci d'acquiescer. Alors, une toile du street artiste britannique Bansky s'est partiellement autodétruite vendredi soir. On était le 6 octobre 2018, il y a deux semaines, juste après avoir été vendue aux enchères pour plus d'1 million d'euros chez Sotheby's à Londres. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire.
Beaucoup de monde en a entendu parler.
Oui, hein. Bon, bah alors je ne rentrerai pas trop dans les détails. Mais voici ce qu'il en est dit. On dirait qu'on vient de se faire banxer. C'est ainsi qu'a réagi la célèbre maison d'enchères Sotheby's de Londres après l'autodestruction d'une toile de Banksy, vendredi 5 octobre, en pleine vente aux enchères devant un public médusé. L'œuvre du street artiste britannique venait juste d'être vendue aux enchères pour 1,185 millions d'euros. La scène surréaliste se déroule à la fin d'une vente de plusieurs lots d'art contemporain chez Sotheby's, une des plus anciennes et importantes maisons d'enchères dans le monde. À peine le marteau vient-il de clôturer la vente de l'œuvre, une reproduction en peinture acrylique et aérosol de l'une des plus célèbres images de Banksy, Girl with Balloon, montrant une petite fille laissant s'envoler un ballon rouge en forme de cœur, que retentit une alarme intermittente provenant du cadre. Le public se tourne alors vers le tableau, accroché sur l'un des murs de la salle de vente, et découvre la peinture se faire partiellement découper en fines lamelles par une broyeuse à papier dissimulé, selon Sotheby's, dans un épais cadre doré. Le résultat final laissant apparaître ce dernier à moitié vide, la partie découpée de la toile pendouillant dessous. Auréolé de ce happening retentissant, le tableau et son cadre déchiqueteur pourraient au final valoir encore plus cher, a estimé Alex Branchick, le responsable de Sotheby's. C'est certainement la première fois dans l'histoire de la vente aux enchères qu'une œuvre d'art se déchiquette automatiquement après être passée sous le marteau, a souligné la maison d'enchères. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent les personnes présentes réagir avec stupéfaction et amusement, immortalisant l'instant en mitraillant de photos et en filmant la peinture déchiquetée, tandis que deux employés de la maison d'enchères s'en approchent pour l'emporter. Banksy lui-même a commenté le coup monté sur son compte Instagram en publiant une photo de la peinture, ironiquement accompagnée de la légende « Adjugé vendu ». Ce message et le fait qu'un mystérieux homme portant chapeau et lunettes de soleil a été vu près de l'entrée de Sotheby's peu après la vente, alimentaient les spéculations sur la possibilité que la star de l'art contemporain ait pu être présente. Alors que la presse britannique spécialisée s'interrogeait également sur une éventuelle complicité de Sotheby's, Alex Banchik, cité par le site The Art Newspaper, a assuré ne pas avoir été averti du canular, la maison d'enchères restant de son côté injoignable samedi pour commenter plus avant cet incident inattendu. Nous avons parlé avec l'acheteur qui a été surpris par cette histoire. Nous sommes en discussion quant aux prochaines étapes, a déclaré la maison d'enchères dans un communiqué publié dans le Financial Times.
Les Québécois profitent davantage de leurs congés, selon Sylvain Sarrazin dans la presse. Jusqu'à présent, les Québécois étaient les champions canadiens des banques de vacances non utilisées intégralement. Mais selon une étude menée par North Star Research Partners pour le compte d'Expedia, les Ontariens leur ont ravi cette couronne plus ou moins enviable. 53% des Québécois sondés, actifs professionnellement, n'utilisent pas la totalité des journées de congés à leur disposition, tandis que 57% des travailleurs ontariens font de même. Cette tendance à la privation de vacances serait en recul au Québec depuis 3 ans. Au niveau mondial, on observe une augmentation de la privation de vacances. Le Québec est donc à contresens de la tendance globale, fait remarquer Floriska Mustière, directrice générale d'Expedia au Québec. Le sondage nous a révélé que les Québécois veulent profiter de leurs vacances pour leur bien-être mental, réduire leur stress et leur anxiété, précise-t-elle. Près de 90% des répondants ont déclaré que les vacances leur permettraient de repartir de zéro de ce point de vue. On a aussi noté que les Québécois prennent plutôt de courtes vacances, préférant rallonger leur week-end. Le rapport précise que les employés du Québec reçoivent en moyenne 19 jours de congés annuels, soit 2 de plus que les autres provinces canadienne.
Eh bien, merci monsieur. Cette nouvelle émission s'achève. Nous avons à nouveau voyagé dans tous les sens, parlé de vin, sinon ça ne serait pas une vraie émission avec Jean-Charles. Nous avons eu un nouveau cocktail pour débuter avec Yves Olivier. J'ai noté.
J'ai hâte à la semaine prochaine.
On attend celui de la semaine prochaine, effectivement. Peut-être à base de vin bleu. Ah, oui, oui. Sait. Merci à vous, merci à Maurice Bolduc pour la mise en onde et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bye bye.